Dans sa série L'écran radiophonique, Radio Canu vous présente un scénario original de Julien Jean-Pierre, Marc. Mise en scène, production, Julien Jean-Pierre, enregistrement, CVRP. Peut bien frapper à cette heure. 2 heures. Il sort de son lit, va vers la porte d'entrée. Qui est là?
C'est moi, Marc.
Ouvre. Il est surpris.
Toi, Marc?
Il ouvre la porte et le fait entrer. Tu es surpris de me voir, hein?
Un peu, oui.
Il le mène dans sa chambre et le fait asseoir sur une chaise. Voici, Marc lui dit.
Eh bien oui, me voilà de retour. Et 2 ans après.
Pas une seule fois tu t'es inquiété de savoir ce que je devenais.
Tu parles d'un ami.
Charles se recouche et lui dit « Que veux-tu? Tu m'as dit que tu partais pour en finir. Avant ton départ, ta mère m'avait téléphoné. Elle était inquiète de te voir partir. Moi, je lui avais dit qu'il ne fallait pas que te laisser partir, que tu avais décidé d'en finir et qu'il fallait que tu ailles voir un médecin. Malheureusement, tes parents n'ont pas pu te retenir et tu es parti sans laisser de nouvelles. Et je dois avouer que comme nous étions fâchés, je n'ai pas cherché à te revoir. »
Marc soupire. Tu parles d'un ami?
Tu es revenu? Pourquoi en fait? Si tu veux savoir si je suis mort, eh bien non, tu le vois. Et surtout ne me fais pas de scène, comme avant notre départ. D'ailleurs, toi non plus, tu n'es pas mort. Tu veux quelque chose à boire?
Marc lui dit, si tu as du jus d'orange.
Charles se lève, sort de la pièce, va dans la cuisine chercher un verre et une bouteille de jus d'orange.
Mmh.
Il revient vers Marc et lui dit, « Cela nous rappelle nos interminables soirées. » Il lui sert à boire. Alors, raconte-moi ce qui t'est arrivé, Marc. Eh bien, voilà. Je suis parti, j'en avais assez de la vie. Je voulais en finir. Non, ne ris pas, c'est sérieux. Je ne trouvais rien dans la vie qui me convenait. Tu te souviens, je m'étais rendu compte que la vie ne valait pas la peine d'être vécue, qu'on ne pouvait pas être heureux dans un monde pareil. J'avais trouvé cela en remontant les Champs-Élysées au cours d'une de mes permes. Je me disais que l'on soit en haut ou en bas de l'échelle, c'était la même chose, et qu'une grande partie des gens, pour continuer à vivre, s'enivraient, comme dans le poème de Baudelaire, Le Vitrier. Donc je voulais en finir. Et avant d'en finir, je voulais me payer du bon temps. Je décidai d'aller passer quelques jours en Suisse, moi qui aimais la montagne. Avec mes petites économies, je pris le train pour Saint-Moritz. Nous étions en juin, le temps était beau, le voyage me fit du bien et me permit d'oublier mes pensées. J'étais émerveillé par le paysage. Arrivé à destination, j'allais dans un restaurant près de la gare manger. Puis ensuite, je décidai de visiter la ville. Tout m'enchantait, le paysage, les gens, le luxe, la propreté des rues. Dans la journée, je cherchais une chambre pour la nuit. J'en trouvais une dans un petit hôtel, un peu en retrait de la ville. Là-bas, la vie était affreusement chère, et comme j'avais décidé de ne pas travailler, il fallait donc que je vive avec ce que j'avais. Je décidai, le soir même, de voir combien de temps je pouvais tenir. Après un calcul fastidieux, je savais que je pouvais tenir 8 jours. 8 jours, c'était énorme, je pouvais prendre mon temps, et je le pris. Je louai une voiture et partis visiter les environs. J'aimais la nuit aussi, lorsque tout le monde était endormi, marcher dans la neige avec mon Waterman. Les jours passaient ainsi. J'étais heureux et je ne pensais à rien. À quoi bon, puisque j'avais décidé d'en finir ?
Un jour alors que je roulais sur la route, il avait gelé et la route était verglacée. Je fus témoin d'un accident. Une voiture de touriste rouge qui était devant moi et roulait à vive allure. Dérapa dans un tournant, percuta contre un muret, et la vitesse la fit se renverser. Je m'arrêtai et courais vers la voiture. Elle commençait à prendre feu. À l'intérieur, il y avait une jeune fille qui cognait contre la vitre. Après un grand effort, j'arrivai à la sortir de là. Il était temps, la voiture explosa. Nous partîmes en voiture et l'emmenai dans l'auberge la plus proche. Là, nous prévâmes les autorités de l'accident. Je lui demandai si elle ne voulait pas aller à l'hôpital pour se faire examiner. Elle me dit non, mais qu'il fallait qu'elle aille de toute urgence en ville voir le docteur qui soignait son père pour le ramener à la maison. Comme je n'avais rien à faire, je lui proposai de l'aider. Après avoir bu un café, nous partîmes. C'est seulement sur la route qu'elle me remercia. Tout en conduisant, je me mis à l'observer. Elle était grande, brune, avec de longs cheveux et de grosses lunettes noires, un manteau de cuir noir et des bottes. Mais ce qui m'excitait le plus, c'était son accent, un accent allemand. Tu ne peux pas savoir comme un accent peut apporter comme excitation. Elle me dit qu'elle s'appelait Ulla. Son père était professeur de langue morte et qu'en même temps il achetait et vendait des pièces d'or. Il les achetait en France, par exemple, pour les revendre en Autriche. Malheureusement, son père était très malade. Il avait la leucémie. Nous sommes allés chercher le médecin. Nous sommes enfin arrivés devant un immense chalet avec des fleurs aux fenêtres, une petite fontaine d'où coulait un petit jet d'eau devant le chalet. Le chalet était un peu en retrait de la route. En entrant, elle me fit attendre au salon pour pouvoir accompagner le médecin à la chambre de son père. Après une heure, elle revint, s'excusa et me pria de venir avec elle pour qu'elle puisse me présenter à son père. La chambre se trouvait en haut, les escaliers étaient en bois. Toute la maison reluisait, le propre et le luxe de goût. Elle frappa à la porte et nous sommes entrés. C'était une chambre où au milieu de la pièce se trouvait un lit. Dans ce lit, un homme, le visage maigre, les cheveux blancs. Ses yeux étaient tellement enfoncés qu'on ne pouvait pas voir leur couleur. Sous la table de nuit se trouvait dans un vase un énorme bouquet de fleurs. La chambre avait une odeur d'éther et d'eau de Cologne. La pièce baignait de soleil. Le vieil homme nous fit signe d'approcher. Il me remercia d'avoir secouru sa fille et me demanda qui j'étais. Je lui dis que j'étais français et que je visitais la région. « Et votre métier ?» Je lui dis que j'en avais pas pour le moment. Il fut surpris et me proposa quelque chose. Un travail et un service. Comme il était malade, il ne pouvait pas voyager. Il savait qu'il y avait cette semaine en Italie une vente de pièces d'or américaines très intéressante. Et si je voulais y aller pour en acheter quelques-unes à sa place, cela lui ferait un grand service. Je lui dis que je ne connaissais rien à ces choses. Il me dit qu'importe, ma fille vous apprendra. Je ne savais que répondre. Mon but n'était pas de rentrer dans la vie, mais d'en sortir. Et puis, je me suis dit, il ne faut pas forcer le destin, laissons les choses se faire. Je dis oui. Il me demanda où je logeais, alors il me proposa d'aller chercher mes affaires et de vivre avec eux. C'est ce que je fis. L'on me donna une magnifique chambre en face de celle du père et de la fille. J'étais surpris et me demandais pourquoi cet homme, que je ne connaissais pas, m'avait proposé cette affaire. De toute façon, cela n'avait aucune importance, puisque mon but était d'en finir. Durant une semaine, je menais une vie de château. Je me levais à 9h. À 9h30, un domestique m'apportait mon petit déjeuner. À 10h, je descendais et retrouvais Ulla. Nous restions une heure où elle m'expliquait les trucs pour acheter des pièces d'or. Attention à la qualité, l'année, la série, etc. Puis, nous sortions, la plupart du temps à pied, faire une petite promenade. L'après-midi, nous passions notre temps après le déjeuner à faire des réussites. Le père restait toujours dans sa chambre. Passer des heures tous les jours avec une fille qui vous plaît, cela vous donne des idées, mais je n'osais pas les mettre en pratique. Je n'étais pas vierge, mais je n'eus pas de vraie aventure avec des filles. Les filles étaient attirées par moi, mais moi je les trouvais la plupart du temps insignifiantes et sans intérêt. Je n'avais que 21 ans. mais je dois dire qu'Ulla avait quelque chose en plus des autres. Peut-être parce qu'elle faisait plus femme que les autres et qu'elle connaissait la vie. Dans nos rapports, je sentais qu'elle était attirée par moi. Les semaines passèrent ainsi d'une façon très agréable. Et puis un matin, le père d'Ulla me dit qu'il fallait partir, car autrement l'on risquerait de perdre la vente. Le jour même, je dis au revoir à Ulla et pris le train pour l'Italie. Arrivé à Rome, je me rendais directement à l'hôtel où se déroulait l'exposition-vente. Il y avait beaucoup de monde. Après une heure d'hésitation, j'achetais mes premières pièces américaines. Puis, allais manger. Pris le train pour Saint-Moritz.
Jusqu'à Romont, ensuite change à Romont, puis il y a le train pour deux.
Ah bon, oui, il n'y a pas un service postal.
Ah, il y a un service postal, mais... Vous allez mettre votre problème, enfin, c'est vous qui savez donc. Vous
voyez, parce que ceux qui s'arrêtent à Romont, il n'y en a pas beaucoup.
Ah, il y en a à chaque heure. Il y en a à plusieurs, simplement ça fait plusieurs trains sur la même ligne. Je vais vous dire ça fait plus cher.
Parce que tout correspond à Romont pour aller à Bulle.
Oui, je pense que je vais jeter un œil.
Oui, évidemment, l'erreur, c'est que j'ai un billet. Parce que vaut mieux prendre l'aller-retour alors.
Oui, parce que
je dois même aller-retour, alors là, il y aura un problème si je prends.
Parce que donc, vous désiriez passer par Bienne, hein, c'est pas...
Ouais.
Non, parce qu'après, c'est toute la voie directe, c'est pas très beau.
Oui, oui.
Donc vous avez motivé de prendre des intercités.
D'accord. Non, mais je veux dire, évidemment, si je pour aller à Bulle, ça va pas bien aller. Si je...
Ah non, alors, il faudra prendre une prolongation de voyage de Berne à Bulle, alors. Hein, de toute façon, mais je peux vous la faire, si vous désirez.
Ah bah, non, pas franchement.
En fait, c'est vous qui savez, hein, je
crois qu'on va
vous dire.
Donc, pour savoir si.
Oui. Allez.
Ah oui, c'est bien de tourner des lignes, hein, du coup. C'est pas bien.
16h14. Et 16h15, ça vous fait arriver à 5h10 à Bulle. Ça
va se reparer à quel ordre, Romain?
16h40.
Dans le train, j'étais inquiet. Les avais-je bien choisis? N'étaient-elles pas trop chères? Pour passer la douane sans encombre, je les avais cachées dans mes chaussettes. Mais tout se passa très bien.
Je fus reçu par les bras ouverts par Ulla, qui me mena de suite vers son père. Je montrai mes pièces, il les trouva excellentes, le prix aussi. Il me remercia, il me donna 5 000 francs suisses. Ulla était heureuse. Nous descendîmes les escaliers, nous allions dans la salle à manger pour dîner. Elle s'était mise à côté de moi et voulut à tout prix me servir. Ses yeux brillaient de plaisir. Elle me dit qu'elle avait beaucoup pensé à moi, et je lui dis que moi aussi j'avais pensé beaucoup à elle et qu'elle m'avait beaucoup manqué. Pour finir le repas, elle voulait absolument que l'on boive du champagne. Après quelques verres, elle semblait tout excitée. Elle se leva de table, passa derrière moi, posa sa main sur mes cheveux, me donna un baiser dans le cou et me dit « Venez, il faut finir la soirée d'une façon sublime. » Elle me prit la main, je me levai, nous sortîmes de la pièce. Montâmes les étages et elle ouvrit la porte de sa chambre. La ferma derrière nous. Dans la demi-obscurité, seule la lampe de chevet éclairait la pièce. Elle se déshabilla et s'allongea sur le lit. « Viens !» Je me déshabillai en hâte et allai la rejoindre. Ce fut merveilleux. Elle était formidable et experte. C'est elle qui menait la danse. Moi qui voulais en finir avec la vie, j'avais de l'argent plus qu'il n'en faut. J'avais une maîtresse sublime, j'habitais dans un endroit rêvé, dans une maison luxueuse, et en plus je voyageais presque toutes les semaines. Je menais la vie que j'avais toujours rêvée. Je me disais que tant que cela durera, je resterai en vie. Je faisais de nombreux voyages, en train, en France, Allemagne, Autriche, Italie, Suède. J'achetais des pièces d'or dans ces pays et je les revendais dans d'autres pays, même en Suisse, dans de très bons prix. Je recevais à chaque voyage environ 5 000 francs suisses. Bien sûr, je dépensais beaucoup et sans compter, mais il me restait malgré tout un petit quelque chose. Thank you. Lorsque j'étais chez eux, Ulla venait me rejoindre tous les soirs dans ma chambre. Elle m'aimait et je crois que je l'aimais bien. Un jour, je décidai moi aussi d'acheter des pièces. Je voyais que ça rapportait gros. J'en achetais avec mon propre argent. Le temps passait ainsi, j'étais très heureux. Et un jour, j'étais dans le train en direction de l'Italie. J'étais seul dans mon compartiment. C'était la nuit. Le train devait bientôt s'arrêter à une petite gare. Je somnolais. Deux jeunes entrèrent dans mon compartiment. Ils se ruèrent sur moi, me dévalisèrent et descendirent du train lorsqu'il était arrivé à la petite gare. Je ne pus les rattraper. Ils m'avaient pris tout l'argent des pièces. Il ne me restait plus qu'à rentrer. À mon arrivée, je racontai tout. Ils furent surpris et je sentis que quelque chose ne passait pas. Cette nuit-là, elle ne vint pas dans ma chambre. Demain matin, le vieux me convoqua dans sa chambre. Il me dit qu'il avait reçu une lettre d'un de ses amis à qui j'avais acheté des pièces. Ce monsieur s'était plaint de ma façon de faire. Je lui avais acheté 50 pièces et après cette vente, où j'avais été très sévère pour la qualité des pièces, je l'avais, soi-disant, bousculé et empêché que lui puisse à son tour acheter des pièces à un de ses collègues. Où, disait-il, j'avais pris le stock, c'est-à-dire 60 pièces, de très bonne qualité. Le vieux monsieur me fit des reproches pour mon manque de politesse et me dit qu'il était surpris de voir que j'avais ce jour-là acheté 110 pièces alors que j'en avais ramené que 70. Je lui dis que je les avais achetées avec moi, mes propres appointements. Il me fit signe de quitter la pièce. Durant toute la matinée, j'errais dans les pièces. Ulla était invisible. Puis, vers midi, l'on frappa à la porte de ma chambre. Un domestique m'apporta une lettre. J'étais congédié. Il y avait aussi dans l'enveloppe 10 000 francs suisses. Je voulais me laisser conduire par ma destinée. J'avais décidé de mourir, ça avait été un entr'acte doré. Je fis mes valises et partis. La maison semblait vide. Dehors, je me retournai. Je vis à une fenêtre du deuxième étage Ulla. Je lui fis signe de la main et partis. Je décidai de rentrer en France. Je ne sais pas pourquoi, mais quelque chose me poussait à venir te revoir, savoir ce que tu devenais. Il vient de finir de parler. Le jour est déjà levé. Charles baille et s'étire.
Eh bien, comme tu vois, rien n'a changé. Je travaille toujours à BBA, mais en plus je fais de la radio.
Marc le regarde surpris. Oui, je fais des émissions dans une toute petite radio libre, Radio Léon.
Charles lui explique. Un jour, il était allé visiter une radio. On l'avait pris pour un professeur. Une émission à la dérive, il l'a prise. C'était une émission culturelle qui traitait aussi des rapports humains.
Mais maintenant, je vais présenter une nouvelle émission. Si tu veux, tu peux y être. Viens demain, nous allons enregistrer la maquette.
Marc accepte.
Le lendemain, chez Charles, Marc est présenté à Bruno, Florent, Cécile.
On prépare toute la journée à enregistrer la toute nouvelle émission.
Quel sera ton rôle dans l'émission ?
Bon, alors ma fonction en quelques mots, je m'occuperai des concerts et de l'actualité musicale, des concerts assez variés, la musique moderne, la musique ancienne, suivant le moment. Oui. Dans les instruments que je préfère, il y a le violon, mais enfin je peux passer aussi bien du piano, aussi bien autre chose. J'aime bien des gens comme Stéphane Grappelli ou Jean-Luc Ponty dans le violon, mais enfin on peut voir aussi des gens très bien dans le piano, certainement. Les deux auront le droit de citer à mes émissions, bien que ces musiciens sont certainement de sensibilités différentes, étant donné qu'ils n'utilisent pas les mêmes instruments, c'est forcément différent. Mais je n'oublierai pas les amateurs lyriques d'opéra, notamment, dont l'art revient en ce moment en force, auprès des médias, où il occupe grâce à des interprètes qui sont mieux connus, qui sont des interprètes de grand talent, mais qui sont mieux connus maintenant du grand public, une place de choix. Je peux parodier un grand chef d'orchestre qui disait qu'il n'y avait pas de frontière entre les musiques, il n'y avait qu'une seule bonne musique, la bonne.
Oui, est-ce que les opéras que tu vas nous présenter seront en intégralité ?
Normalement, je pense qu'il ne doit pas y avoir de problème.
Oui, surtout que nous aurons toute la nuit devant nous, alors même si on dépasse les 3h30, ça n'a pas d'importance.
Non, aucune, bien sûr.
Oui.
Merci, Florent.
Tout près de moi, Marc, lui aussi est brun, un peu plus petit que Florent. Oui, Florent ne rit pas, mais je suis obligé de présenter physiquement les gens parce que le public aime bien savoir comment les gens sont. Alors, Marc, quel sera ton rôle dans l'émission ?
Bah, ce sera de collaborer de temps à autre aux émissions lorsque les sujets se prêteront à mes activités ou mes occupations. Et, il faut savoir que je passe la plupart de l'année à l'étranger, notamment en Suisse. Et donc, je peux rapporter certains sujets plus ou moins originaux ou du moins avoir des faits précis qui peuvent vous intéresser, je pense.
Oui. Est-ce que tu as déjà commencé à préparer quelque chose ?
Disons que j'ai commencé déjà à enregistrer dans l'ambiance des gares et des trains lors de mes déplacements, c'est-à-dire les annonces, les précipitations que l'on a lors des débuts de voyage.
Et je crois que tu ne voyages pas qu'en Suisse, tu fais un petit peu toute l'Europe.
Oui, notamment en Allemagne, quelquefois en Italie, et occasionnellement en Belgique.
Et qu'est-ce que tu aimes le mieux, aller dans quel pays L'Allemagne, la Suisse, la Belgique
Je pense que ça reste la Suisse,
de toute façon. La Suisse, oui.
Mais l'Allemagne a son charme aussi. De nature, je préfère un peu moins l'Italie.
Bon, eh bien, merci Marc.
Bon, alors Bruno est un garçon grand, brun,
normal.
Il a l'air très sympathique, oui. Qu'est-ce qu'il faut encore te dire pour te présenter ?
Certaines radios m'appelaient le plagiste.
Le plagiste, voilà. Pourquoi ?
Parce que...
Hein ?
Il faut chercher dans le dictionnaire.
Ah, d'accord. Bon. Alors, quel sera ton rôle dans la nouvelle émission ?
Régisseur.
Régisseur, voilà. Et puis ?
Pour la musique, partie musique.
Oui, la partie musique. Tu vas nous composer quelque chose ?
Voilà, peut-être un générique.
Peut-être un générique, oui. Tu penses enregistrer ce générique dans les studios de Monte Carlo, je crois.
Peut-être, il faut voir, c'est pas évident.
C'est pas évident.
Il faut trouver les créneaux, comme on dit.
Oui. Voilà,
c'est la guerre. Il y a la guerre économique, mais il y a la guerre artistique aussi.
Oui. Voilà. Ça fait longtemps que tu chantes, je crois.
Ah oui, longtemps. Ça fait au moins 10 ans.
Ça fait au moins 10 ans.
Voilà, 10 ans.
C'est bien.
Et la suite de notre émission. Place au studio.
Après cet enregistrement, Marc a disparu. Il a simplement laissé un mot à Charles, lui disant qu'il voulait continuer sa route, voir jusqu'où elle le mènerait. Lui ne souhaite qu'une seule chose, c'est en finir. Je ne t'ai pas dit, c'est qu'en arrivant en France, en déballant mes affaires, j'ai trouvé une lettre d'Ula. Elle me disait que c'était son père qui m'avait payé des jeûnes pour me faire attaquer. Mais il ne l'aurait pas fait si avant il avait reçu la lettre de son ami. Il s'était rendu compte de notre intimité. Car son père aimait sa fille plus qu'une fille et la tenait sous sa coupe. Ula était très malheureuse. Elle m'aimait, elle me demandait de venir la chercher. Moi, je n'ai pas l'intention de le faire. Mais qui sait, peut-être, irai-je? Cela dépend de la destinée. Et de moi? Car si je veux en finir, enfin nous verrons bien, que la vie est libre lorsqu'on en décide de ne pas avoir d'avenir. Adieu donc. Charles se remémore le retour de Marc grâce à ce bout de cassette. Où est Marc, le Rimbaud du XXe siècle?
Haben Sie den Zimmer von Heinz Lacke? Bitte, wie war denn Duftel? In 40 Franken? Ja, danke schön. Heim die Kasern, führen Sie die Heinen, saugen Sie viel an vorigen Fallen, saugen in ein Vierer der Sinn. Ich hab ihn aus, wie kann ich ein? Ich bin wie Beethoven's. Ich weiß, wie viel Hosen's. Seien Sie wie Törschen, Sie wie ein Dubai. Oder nach oben, in Heise wie die Dei. Ohne Speaker und mir heim so ein. Ich war ein Sie, ich war ein Kuh. Ich weine wie die Tölden.
Each man kills a thing he loves. Each man kills a thing he loves. Da 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 da. Each man kills a thing he loves. Each man kills a thing he loves. Da 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 da. Some do it with a bitter look, some with a flattering word. The coward does it with a kiss, the brave man with a sword, with a sword, with a sword. Each man kills a thing he loves, each man kills a thing he loves. Each man kills a thing he loves. Each man kills a thing he loves. Da 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 da. Some kill their love when they are young, and some when they are old. Some strangle with the hands of lust, some with the hands of gold. The kindest use a knife because the dead so soon grow cold. Each man kills a thing he loves. Each man kills a thing he loves. Da 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 da. Each man kills a thing he loves. Each man kills a thing he loves.
too long. Some sell and others buy. Some do the deed with many tears, and some without a sigh. For each man kills the thing he loves, yet each man does not die. Each man kills the thing he loves. Each man kills the thing he loves. Da-da-da, da-da-da-da. Each man kills the thing he loves. Each man kills the thing he loves. Da-da-da, da-da-da-da.
Radio Canu vous a présenté, dans sa série L'écran radiophonique, un scénario original de Junier Jean-Pierre, Marc. Production, mise en scène, Junier Jean-Pierre.